Henri Tessier, contrabajista francés, nacido en 1945, con una larguísima trayectoria profesional, actúa el día 2 de julio en el Festival de Jazz de Guecho, presentando a su Azur Quintet, con el que ha grabado un par de discos, Mosaic Man y Strings Spirit. Henri, bienvenido al Club de Jazz.
Merci beaucoup.
Empezamos, si te parece, por la actualidad, que es esa actuación el próximo 2 de julio en Guecho, con el Azur Quintet, formación con Henri Tessier con trabajo, Sebastián Tessier en el saxo alto, Glenn Ferris trombón, Bojan Sulfikar Pasic en el piano, Tony Gavesson en la batería. ¿Características, Henri, de este proyecto?
Oh, les caractéristiques, vous savez, c'est très simple. C'est un groupe qui existe maintenant depuis 7 ou 8 ans. Et, comment dirais-je, c'est un groupe qui a beaucoup d'expérience, et les musiciens qui jouent dans cet orchestre-là sont des musiciens que j'ai choisis parce qu'ils ont beaucoup de talent et beaucoup de connaissances et d'inspiration, et avec eux, je peux explorer et jouer des musiques très diverses et très riches.
Dice que es un grupo que con unos músicos que están juntos desde hace 7 años, que ya tienen mucha experiencia juntos, y que él ha querido destacar que es el mismo quien los ha elegido, y que los ha elegido por su talento y porque le permiten tocar una gran variedad de estilos, y lo que hace que sea un grupo muy conjuntado.
Dos discos con esta formación, Mosaic Man y Strings Spirit, este segundo con orquesta de cuerda, aunque nada que ver con el habitual concepto jazzístico de este tipo de discos, donde la orquesta es un mero acompañante para el lucimiento del solista. ¿Con qué intención incorporas la orquesta para este proyecto?
Oui, c'est-à-dire que lorsque dans la musique de jazz on enregistre depuis toujours, à chaque fois que des musiciens de jazz ont enregistré avec des cordes, il y a toujours eu un petit problème parce que les cordes sont toujours, enfin à mon avis, il y a eu de très belles réussites, mais souvent les cordes sont vraiment considérées comme un décor. Or là, dans ce projet, l'idée c'était que les cordes soient comme un élément supplémentaire de la musique, et c'est pour ça que j'ai demandé à Claude Barthélémy d'écrire les arrangements, mais en fait, il a fait plutôt un travail de compositeur. C'est-à-dire qu'il a, comment dirais-je, travaillé comme s'il réinventait de la musique à partir de mes propres compositions. Comme s'il était le sixième membre du quintet, et que lui, au lieu de jouer d'un instrument, il jouait et improvisait avec les cordes.
Dice que tradicionalmente en la historia del jazz, pues los discos con cuerdas o las colaboraciones de músicos de jazz con cuerdas, siempre las cuerdas han sido un elemento meramente decorativo, pero que en este caso ha querido plantear las cuerdas como un elemento más diferente y integrado dentro del quinteto, es decir, que está el quinteto. Y Claude Barthélémy, que se ha ocupado de los arreglos, ha sido un músico más que se ha expresado a través de los arreglos y de las cuerdas. Y él considera que es un compositor más porque ha partido de las composiciones originales para hacer un nuevo trabajo.
Actúas en Guecho, un festival de los pocos que en Europa en verano se preocupan de algo que no sea jazz norteamericano. ¿Por qué crees que sigue existiendo esa dependencia de lo que allí venga a la hora de programar los festivales?
Oh, vous savez, la dépendance, elle existe d'une manière naturelle, parce que d'abord, c'est une musique qui nous vient des États-Unis. Enfin, c'est ce que maintenant, depuis longtemps, c'est une musique qui ne vient plus seulement des États-Unis, mais du monde entier, et énormément en Europe. Par exemple, en France, le jazz est arrivé au début du siècle dernier, dans les années 1920. Donc c'est une musique qui a tout de suite concerné les musiciens et le public français, par exemple. Mais dans l'esprit des organisateurs, quelquefois, il leur semble qu'il faut beaucoup programmer de musiciens américains. Bon, c'est leur choix. Moi, je suis très heureux qu'il y ait pas mal de festivals quand même en Europe qui programment des musiciens européens. Et c'est très intéressant parce que les musiciens européens, en fait, sont vraiment très créatifs. Et je crois que depuis maintenant de nombreuses années, ils ont inventé leur propre musique de jazz.
Dice que es natural que el jazz americano tenga un originalmente un mayor peso, puesto que la música, este estilo de música nació allí, pero que desde que, por ejemplo, en Francia el jazz americano se empezó a establecer ya en la década de los años 20, con los primeros, la primera visita de los primeros grupos, ya ha pasado mucho tiempo y hay muchos grupos y músicos europeos que han desarrollado un lenguaje propio de una calidad creativa importante y que deberían tener un mayor peso en los festivales. De todas formas, eso depende de los organizadores de los festivales. Creen todavía que el jazz americano es predominante y bueno, a él le encantaría que los organizadores programasen más jazz europeo y por eso le encanta la oportunidad de tocar en Guecho, que es un festival que da tan de importancia al jazz europeo.
París fue en su momento gran centro de encuentro con los grandes jazzman norteamericanos. En tu caso, de bien joven tuviste la oportunidad de tocar con grandes como Lee Konitz, Dexter Gordon o Don Cherry. ¿Qué aportó a Henri Tessier y por extensión a los grandes músicos europeos de entonces ese contacto con los grandes músicos norteamericanos?
Alors, vous savez, c'est difficile de répondre à cette question en deux mots, parce que là, on entre un petit peu dans le domaine historique, ce que j'évoquais par rapport à la réponse précédente, c'est-à-dire que les musiciens très très tôt, les musiciens américains sont venus vivre à Paris. Ils sont pas seulement venus donner des concerts ou jouer pour les festivals, mais ils se sont installés, ils sont devenus parisiens. Et pour les musiciens parisiens, c'était formidable de pouvoir travailler avec ces musiciens-là. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de commencer très très jeune dans les clubs parisiens à accompagner ces grands solistes qui s'installaient à Paris ou qui restaient quelques mois.
Dice que bueno, que es una cuestión que nos llevaría muy lejos porque sería hablar de la historia del jazz en cierto modo, pero que la importancia de París es que los músicos no solo iban a tocar, sino que muchos de ellos se instalaron en París y entonces que de ese contacto pues surgió unas relaciones mucho más sólidas que en otros sitios y que en su caso particular pues empezó a tocar con ellos, empezó en el jazz muy muy pronto y pudo colaborar con ellos desde muy temprano y es una experiencia realmente importante.
Ces grands musiciens qui se sont installés à Paris et avec lesquels j'ai joué très jeune dans les clubs, vous parliez de Dexter Gordon, de Lee Konitz, de Don Cherry, mais il y avait aussi Bud Powell, Kenny Clark et beaucoup, beaucoup d'autres grands musiciens avec lesquels j'ai eu la chance de jouer très jeune. Ce sont en fait avec eux que j'ai appris la musique. Ce furent mes maîtres. C'étaient mes maîtres, c'était ceux qui m'ont... J'ai appris à jouer du jazz avec ces grands musiciens-là. Et pour moi... Et pour les musiciens de ma génération, parce que j'étais très jeune, donc c'était la fin de la grande époque de l'ère bebop, ça a été une chance formidable, mais à partir de là, il a été possible pour nous de développer notre propre sensibilité par rapport à la musique de jazz qui venait de l'Amérique, et... parce que tous ces grands musiciens-là ne parlaient que d'originalité, n'étaient à la recherche que de l'originalité. Et ça m'a beaucoup marqué. Et pour répondre un petit peu plus généralement, je pense que ça a aussi marqué de la même manière dans les autres pays d'Europe où les grands musiciens américains se sont installés. Voilà.
Dice que... que él empezó muy joven en el mundo del jazz y que no solo tocó con músicos como Lee Konitz, Dexter Gordon, Don Cherry, sino también con Kenny Clarke o Bud Powell, y que él los considera como sus verdaderos maestros. Él aprendió a tocar jazz y a ser jazzman con ellos. Y esto empezó en la época, al final de la época del bebop. Entonces transmitieron ese lenguaje, pero sobre todo transmitieron la noción muy importante de que hay que ser originales, porque estos músicos eran profundamente originales, y que él cree que el mensaje más importante es eso, que transmitieron a los músicos europeos, es que tenían que ser originales y a partir del lenguaje bebop en esa época construir algo diferente. Y que esto no ha ocurrido solo en Francia, sino en otros países europeos en los que hubo músicos estadounidenses que se instalaron también.
Bueno, pues parece que los músicos europeos les ha tomado la palabra a los antiguos grandes músicos norteamericanos. Yo no sé si se han cambiado las tornas, y en este caso son los europeos los que pueden aconsejar de originalidad a los americanos.
Ah. Oui, vous savez... Comment répondre à ça? D'une certaine manière, je suis d'accord, mais il y a toujours aussi en Europe des musiciens qui continuent à suivre les musiciens américains. Et moi, je connais... si vous voulez, là, il y a les musiciens américains de qui on peut penser ça, qui sont moins originaux, c'est parce qu'ils essayent de rester dans une sorte de tradition et qu'ils ont perdu un petit peu le sens de l'aventure. Mais, donc ils sont peut-être moins intéressants, moins créatifs. Mais il y en a beaucoup encore de musiciens aux États-Unis qui continuent à chercher et à trouver des choses et qui continuent d'influencer les musiciens du monde entier. Je pense par exemple à quelqu'un comme Joe Lovano, qui a, fait changer le langage du saxophone et a influencé tous les saxophonistes du monde. Et c'est pas vieux que ça, ça date de... Joe Lovano est apparu au milieu des années 80. Donc c'est quand même... les musiciens de jazz américains restent quand même très créatifs.
Dice que está de acuerdo con tu afirmación hasta cierto punto. Es válida para los músicos americanos que se refieren únicamente a la tradición y que dejan de crear algo nuevo, pero dice que sigue habiendo muchos músicos norteamericanos que siguen haciendo siendo creativos y aportando un nuevo lenguaje. Y pone el ejemplo de Joe Lovano, que apareció a mediados de los años 80 y que ha influenciado a todos los saxofonistas actuales y que ha creado un nuevo lenguaje para el saxo.
¿Cree, Enrique, que debe ser la música tradicional de raíz la fuente diferencial del jazz en Europa, o hay más caminos para conseguirlo? Tiene un buen ejemplo en su grupo, como es Bojan Set.
Pero, vous savez, la diferencia qu'il y a, je crois, la vraie diferencia qu'il y a entre... Quand les musiciens sont créatifs, hein, parce que tous les musiciens européens ne sont pas forcément créatifs et ne sont pas forcément originaux, mais quand il y a une originalité chez les musiciens européens, il me semble que c'est parce qu'ils assument et qu'ils acceptent leurs origines culturelles et qu'ils les incorporent à leur travail de musicien de jazz, comme ça doit être dans le jazz depuis toujours. Depuis toujours, la musique de jazz a été une musique qui a été perméable à toutes les musiques du monde. C'est une musique métisse dès ses origines, et c'est ça qui fait que la musique de jazz est une musique si vivante toujours aujourd'hui. Et c'est vrai que si on regarde autour de soi et que l'on s'inspire de ses origines culturelles, on peut enrichir cette musique de jazz, et c'est vrai que ça peut être une source d'originalité.
Lo importante es hablar de músicos creativos, músicos originales, que sí, cada músico original y creativo se inspira en sus fuentes, sus propias raíces, en lo que le rodea, pero eso ha existido siempre en toda la historia del jazz. Es una música que en esencia es mestiza y permeable a influencias de músicas del mundo, y que claro, un músico europeo tiene que estar influido, puede muy bien verse influido por su propio folclore y aportar a hacer algo nuevo y creativo, pero que de todas formas es una continuidad en toda la historia del jazz, porque el jazz sigue siendo una música muy viva.
En tu caso, desde el inicio ya mostraste una cierta atracción por la música de vanguardia, que entonces era el free jazz. ¿Cuál ha sido tu relación con la libre improvisación en todos estos años, Henri?
Mais vous savez, moi, j'ai eu énormément de chance quand j'ai commencé, parce que c'était l'explosion musicale des années 60. Et il y avait absolument tous les styles de jazz qui étaient joués à ce moment-là. Et l'expérience que j'ai eue avec les musiciens dont on parlait tout à l'heure et avec mes amis musiciens français, c'est que nous jouions toutes ces musiques-là en même temps. Il m'arrivait de jouer un soir avec Likonitz, le lendemain avec Dexter Gordon, avec des styles très différents, et puis deux jours après, je jouais avec mon propre groupe et nous jouions du free jazz, nous improvisions totalement librement. Et si vous voulez, c'était très enrichissant parce que cette musique de jazz, elle était multiple et elle est toujours multiple. Et si on veut vraiment être un vrai musicien de jazz, on doit quelque part être capable d'en jouer tous les styles. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'était une chose extrêmement naturelle. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Quand, par exemple, je lis des interviews de certains jeunes musiciens de jazz américains qui disent qu'ils vont d'abord étudier le bebop et puis qu'ensuite ils vont continuer à étudier, puis qu'après ils vont s'essayer au jazz plus libre, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut tout faire en même temps, jouer toutes les musiques en même temps, et c'est comme ça qu'on a le plus de chances d'être créatif.
Tuvo la suerte de que cuando empezó en esto del jazz, era a principios de los años 60, cuando había muchos estilos al mismo tiempo en pleno apogeo y muy variados, y que podía tocar un día con Likonitz y al día siguiente con Dexter Gordon, que tenían unos estilos completamente diferentes, y luego al día siguiente con su propio grupo hacer improvisación libre, hacer free jazz, y que para él lo importante es este sentido múltiple de varios estilos y poder tocarlos a la vez. Por eso dice que cuando lee entrevistas a músicos americanos, por ejemplo, dicen que primero quieren estudiar el bebop y a partir de ahí ir avanzando al free jazz, por ejemplo, él dice que no, que esa no es la buena orientación. La buena orientación es asimilar todo a la vez y desarrollar y poder tocar todos los estilos a la vez.
¿Qué atractivos tiene para el músico la música de libre improvisación y cómo crees, Henri, es factible hacerla llegar al oyente?
Ben, vous savez, c'est comme avec n'importe quelle autre forme d'art. C'est-à-dire que la musique et la musique de jazz et la musique totalement improvisée, si elle raconte quelque chose, le public s'y intéresse. Si ce que vous êtes en train de jouer participe d'une histoire artistique, le public s'y intéresse. C'est un peu comme la peinture non figurative. C'est pas parce que un peintre va peindre de la peinture non figurative qu'elle sera forcément moche, qu'elle sera forcément laide, qu'elle sera forcément inharmonieuse et qu'elle sera forcément ennuyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est question d'équilibre, tout est question de dynamique. Si dans le jazz que j'appellerais figuratif, c'est-à-dire admettons par exemple les standards, si vous jouez ça et que vous ne racontez rien en jouant un standard et que vous jouez ça de manière plate, c'est aussi ennuyeux que la musique improvisée, ennuyeuse quand elle l'est.
Dice que lo importante no es que se cuente una historia, el público puede, la audiencia puede aceptar una música completamente improvisada siempre que cuente una historia y que no sea algo completamente incoherente. Y es lo mismo que la música, que la pintura no figurativa. El arte no figurativo no tiene por qué ser algo feo, sin ton ni son. Por otro lado, él dice que, por ejemplo, tocar estándar sería como el arte figurativo, pero si se tocan de una forma sosa y llana, pues será tan aburrido como la la libre improvisación aburrida y sin que no cuenta ninguna historia.
Mm-hmm. Yeah.